devenir un cereal lover
ou un cereal eaters.
Bonjour les cerivores, nous allons aujourd'hui vous parler avec Maxine de la série Blake et Mortimer, donc une série télé d'animation franco-canado-belge créée d'après la série de bande dessinée éponyme d'Edgar Pierre Jacob pour les studios Ellipse et Cactus Animation, donc des studios en grande majorité français et produits par Dargo Film, Dargo qui est aussi un éditeur de bande dessinée, entre autres Lucky Luke.
Pas du petit rien, quoi. Hein.
Voilà.
Donc, cette série, elle a débuté dans les années 1997.
Et elle s'est terminée en 97.
Ah, elle a fait qu'une année.
Ouais, et en fait, ça passait régulièrement toutes les semaines. Donc, bah voilà, c'est une série qui a mis un long temps à se faire. Mais après, bien sûr, ça a passé régulièrement. Et on a pu la voir sur de nombreuses chaînes françaises. Et ça repasse de temps en temps.
D'accord. Alors, on pourrait classer cette série comme une série animée d'aventure et fantastique. Elle est composée au final que donc d'une saison, comme on l'a dit, qui pouvait être soit de 13 épisodes de 45 minutes ou alors de 26 épisodes de 24 minutes selon les diffusions et les formats de diffusion utilisés par les chaînes sûrement.
Voilà, c'est ça. Donc il y a des gens qui ont une demi-heure à consacrer et donc ils ont scié en deux les épisodes. Et puis ceux qui... On a vu ça avec Tintin aussi. Enfin, il y a plein de séries comme ça qui ont été soit saucissonnées, soit mis... On a aussi des séries classiques dont on a eu le droit à la même chose. Hein, enfin, de non-animation, entre guillemets. Donc ça se fait de moins en moins, mais ça se faisait. Alors la série raconte les aventures du capitaine Francis Blake, ancien pilote de la Royal Air Force, devenu directeur du MI5, qui est le service secret britannique de contre-espionnage, et de son ami, le professeur Philip Mortimer, un spécialiste en physique nucléaire, qui est l'un des plus éminents scientifiques du Royaume-Uni. Les deux héros se retrouvent souvent confrontés à leur ennemi juré, le fameux colonel Ulrich, un criminel de classe internationale, ne considérant que son intérêt personnel, donc vraiment encore un fou dangereux qui n'est pas enfermé. Eh bien, je crois que tu vas nous passer le petit générique assez original de cette série. Principaux, le capitaine Francis Blake, ancien pilote de la Royal Air Force, l'aviation anglaise, ancien pilote de guerre, devenu directeur, comme je dis d'ailleurs, du service britannique de contre-espionnage, le fameux MI5. Lui, il est d'origine galloise, fils d'un colonel des Royal Welsh Fusiliers, donc les gardes gallois, et aussi juge de paix. Il a fait ses études au prestigieux collège d'Eton, donc à la classe, hein, comment dirais-je. Fasciné par le personnage de Laurence d'Arabie, il partage avec lui le goût de l'aventure. Et c'est un fervent défenseur de l'impérialisme britannique. Il symbolise l'esprit de résistance et apparaît plus souvent froid et détaché, combatif et déterminé, mais aussi réfléchi et prudent. Toujours maître de ses réactions, Francis Blake incarne tout à fait le flegme et la courtoisie britannique, hein, le British dans toute sa splendeur. Tu peux nous parler de son acolyte, le professeur ?
Donc son duo à l'écran, c'est le professeur Philip Mortimer, un spécialiste, comme on l'a dit, de la physique nucléaire, considéré comme l'un des plus éminents scientifiques de la Grande-Bretagne. Et donc, après son invention qui donne la victoire au monde libre dans le secret de l'espadon, donc c'est ça qui va lui donner toute sa gloire, hein. Il naît à Shimla, à la base, au cœur du Raj britannique. où son père officie comme médecin-major de l'armée, ce qui lui procure un certain goût pour l'exotisme. Derrière le scientifique se cache en vérité un fervent humaniste. Il est diplômé de l'université de Glasgow et donc Philippe Mortimer pratique plusieurs sports de combat et se passionne aussi pour l'archéologie, donc il est un peu multifacette. C'est un personnage jovial et malicieux, il est très imaginatif et plein d'humour. Mais son impulsivité l'amène parfois à s'emporter et à ne pas voir le danger.
Donc c'est vraiment le Celte, lui, contrairement...
Ils sont un peu opposés, les
voilà,
deux.
Voilà, lui, il est d'origine écossaise, donc il aime bien boire, il aime les blagues, c'est vraiment le joyeux bout en train. Alors c'est marrant parce qu'on pourrait faire un petit peu un parallèle avec Sherlock Holmes et le Dr Watson. Et quand on regarde un petit peu les traits de l'un et l'autre, ben voilà, on a un Blake qui est donc les traits
trois
grands et élancés. Et puis notre ami Mortimer qui, lui, est plutôt costaud, bon vivant. Et comme lui, il a donc Dr. Watson était médecin dans l'armée des Indes. Et là, on voit que son père et lui et son éducation a été fait en Inde. Donc, une petite similitude, une anecdote dans l'anecdote. Ensuite, on a le colonel Ulrich. Alors, le méchant colonel Ulrich, l'ennemi juré de nos deux héros, et c'est un criminel de classe internationale, comme je disais. Il travaille toujours pour lui-même ou il est employé de temps en temps par des puissances étrangères. C'est un homme d'action cultivé, se proclamant grand maître du jeu d'échecs, reconnu comme héritier direct du Brahma Sika en Inde. Il n'hésite pas à utiliser la fourberie pour arriver à ses fins. Véritable génie du mal, Ulrich rappelle le professeur Moriarty. Et oui,
on peut encore pousser la métaphore.
Qui est
Sherlock.
Le plus redoutable ennemi, bien sûr, de Sherlock et dans les romans de Arthur Conan Doyle. C'est assez marrant de voir cette similitude. Et c'est marrant parce que aussi Mortimer, bon, si on aime un peu la littérature, pour revenir à Arthur Conan Doyle, on a aussi le professeur Challenger qui ressemble beaucoup à Mortimer, donc l'espèce de savant jovial mais un peu bourru. Et voilà, donc c'est assez marrant de voir les inspirations de Peter Jacobs.
Et ensuite, notre dernier personnage principal ou récurrent, on a Sharky, qui est l'homme de main du fameux colonel Ulrich.
Alors, la brute épaisse, toujours prêt
À salir les mains,
à suivre bêtement... les brutes épaisses, comme on peut le voir dans tous les films d'espionnage, je pense entre guillemets, par exemple, à Jaws, la série de James Bond, le géant qui a une mâchoire pas possible et qui peut tuer tout le monde. Enfin, on a toujours des... Tous les méchants ont leur sbire, et lui, c'est le sbire en chef. Les deux héros sont épaulés dans leurs aventures par tout un tas de membres de force de l'ordre, tels que l'inspecteur chef Glenn Kendall de Scotland Yard, bien sûr, le commissaire Pradier de la DST, donc, ce qui est l'espionnage français, entre guillemets, de l'époque. On a aussi des personnes comme le directeur du MI6, les agents spéciaux, William Steele ou l'adjoint de Blake au MI5 qui s'appelle David Honeychurch. Ils sont aidés aussi par des scientifiques comme le professeur Labrousse, le français directeur de la météorologie nationale, le biologiste russe Nastasia Vardinska ou le physicien Geronimo Ramirez. Ils peuvent également compter sur Ahmed Nasir, leur fidèle serviteur indien, soldat dans le secret de l'Espadon, serviteur dans le mystère de la Grande Pyramide et de la Marque Jaune, aventure à la fin de laquelle il quitte la série. Il faudra attendre le sarcophage du 6e continent pour voir revenir ce personnage. Il est alors agent secret des services indiens. Donc on voit que science et...
espionnage se mélangent.
Voilà. Et puis, ce qui est bien aussi dans cette série, c'est voilà, on a... pas que des personnages anglais, c'est pas anglo-centralisé.
Ça va dans tout l'empire anglais de l'époque. En
fait. Voilà, plus même dans le monde entier, puisqu'il des aventures se passent un petit peu partout, bien qu'on verra dans les anecdotes que oui, il y a quand même pas mal d'aventures qui se passent en Angleterre.
Alors, autour des anecdotes de la série maintenant, on a donc une série qui est composée de 13 épisodes en deux parties, dont les adaptations des 9 premières aventures de bande dessinée, donc à partir du Secret de l'Espadon jusqu'à l'affaire Francis Blake. Et on a 4 scénarios originaux, l'héritage du Viking, le secret de l'île de Pâques, le testament de l'alchimiste et la porte du druide. Alors, Michel Panisky, qui donne sa voix à Philippe Mortimer, et Robert Guilmar à Francis Bleck dans les voix françaises. Et on a aussi Mario Sattini qui va jouer le fameux colonel Ulrich.
Donc des habitués du doublage de pas mal de séries qui sont eux aussi des acteurs moins connus du grand public, mais de très bons doubleurs. Alors, pendant la Seconde Guerre mondiale, sous l'occupation allemande de la Belgique, Edgar P. Jacobs est contraint d'abandonner sa carrière de chanteur lyrique pour tenter de gagner sa vie dans l'illustration. Et sur les conseils de son ami Jacques Lodi, il va se présenter ses dessins à Jean Drats, qui est à l'époque le directeur artistique de l'hebdomadaire belge Bravo. Son travail va donner satisfaction et à la fin de l'année 42, il se voit alors confier l'achèvement de Gordon l'Intrépide, Flash Gordon pour, si ça vous dit quelque chose, bah, s'appeler Gordon l'Intrépide, la série d'Alex Raymond, dont le stock de planches arrive à épuisement depuis que les communications avec les éditeurs américains, bien sûr, ont été interrompues en raison du conflit mondial. Et en 43, donc, il répond à la commande de son hebdomadaire et va signer une série de sa propre invention qui s'appelle Le Rayon U, une histoire de science-fiction qui concentre plusieurs ingrédients que l'auteur utilise ensuite dans Blake et Mortimer, notamment la personnalité des personnages, mais également les souterrains, les créatures préhistoriques ou les sculptures précolombiennes. Mais la présence et les rôles qui sont donnés à de jeunes femmes ne sont pas repris dans Le Monde du journal de Tintin, qui s'adresse à un jeune lectorat masculin à une époque qui ne connaissait pas encore la mixité scolaire. Donc voilà, c'était assez misogyne à l'époque. On avait du mal à mettre des héroïnes féminines. C'était un peu, les femmes, c'était les princesses, ou voilà, et un petit rôle. Mais il fallait surtout pas leur donner un rôle important. Donc lui, il était déjà en avance pour son époque.
Dans Le Secret de l'Espadon, Jacob reprend des éléments de sa série précédente, Le Rayon U, tout en cherchant à s'éloigner du space opéra pour approcher un univers plus réaliste. La série Blake et Mortimer est pré-publiée pendant de nombreuses années dans le journal de Tintin, dont elle devient l'une des séries les plus populaires. Les albums paraissent aux éditions de Lombard.
En 77, Jacob publie la première partie de l'histoire, Les trois formules du professeur Sato, qui est le dernier album qu'il achèvera de son vivant, et puisqu'il mourra 10 ans plus tard, en 87, sans avoir la possibilité de finir le dessin de la seconde partie.
Alors, l'apport de Jacques Van Malkebeck dans la construction du scénario des aventures de Blake et Mortimer est essentiel, mais non décisif. C'est l'ami d'enfance de Jacobs, et lui-même, il est peintre et dessinateur. Il partage avec l'auteur de nombreuses références culturelles, littéraires et cinématographiques, fruit de découvertes communes pendant leur enfance bruxelloise. À partir du thème général et du point de départ du récit décidé par Jacob, les discussions menées par les deux amis permettent à l'auteur d'échafauder l'intrigue. Mais si Van Malkebeck apporte ses suggestions, c'est bien Jacob qui, en dernier lieu, décide du scénario final.
Donc, collaboration et le choix final, bien sûr, et c'est Jacob, mais c'est bien aussi de mentionner que voilà, il y avait quelqu'un quand même pour l'aider à la réflexion générale de cette œuvre. Alors, la série est interrompue donc après la mort de son créateur le 20 février 87, la série de BD, je précise. Mais dans la mesure où il n'a jamais manifesté d'opposition au fait que le héros lui survive, l'achèvement du second tome des trois formes du professeur Sato va être confié en 89 à Bob Demour, par les éditions, et Blake et Mortimer créé en 82, assisté par Guy de Shooter pour les décors. L'album paraît en avril 1990 et va rencontrer un grand succès malgré les faiblesses relevées par les spécialistes de l'œuvre de Jacobs. On remplace pas ça. On a vu la même chose avec Goscinny, Uderzo et Goscinny pour Astérix. On n'a pas eu ça pour Tintin. Je parle surtout de la bande dessinée belge, puisque lui et ses ayants droit ont refusé que quelqu'un reprenne pour l'instant le flambeau, entre guillemets. Ce qui est un petit peu dommage, c'est à partir du moment qu'on reste dans l'esprit. On a vu dans Astérix, ça continue. Il y a plein d'exemples. Blake et Mortimer en est un très bon exemple. C'est un petit peu dommage.
Alors, en 1992, les éditions d'Argo rachètent les éditions Blake et Mortimer, donc avec elles les droits de la série, et décident de relancer la production. C'est alors que Jean Van Ham, alors considéré comme l'un des meilleurs scénaristes européens, est choisi pour l'écriture du nouvel épisode, alors que le dessin est confié à Ted Benoit. Cette nouvelle aventure, l'affaire Francis Blake, est publiée en 1996. Largement inspirée par le graphisme de La Marque Jaune, elle développe un récit teinté d'espionnage sans réellement de science-fiction et situé en Angleterre dans les années 1950. Les ventes vont alors atteindre un record. L'album de bande dessinée est tiré à 480 000 exemplaires, puis est réédité seulement une semaine après sa mise en vente. Il devient finalement l'album le plus vendu de la série avec un total de 600 000 exemplaires. Il reçoit aussi l'année suivante le prix Alf Art du public au Festival d'Angoulême.
Alors, le charme de la série tient entre autres au savant mélange de réalisme et de science-fiction. Si dans Le Secret de l'Espadon, l'aventure est surtout d'ordre militaire et technologique, et dans Le Mystère de la Grande Pyramide, plutôt historique et même ésotérique, des albums comme La Marque Jaune, par exemple, ou L'Énigme de l'Atlantide, ou Le Piège Diabolique, vont plutôt mêler une action militaire, guerrière ou policière à l'utilisation de découvertes scientifique. Donc Edgar P. Jacobs se distingue notamment par sa volonté de réalisme et d'exactitude dans le détail. Il va travailler souvent auprès de photos ou croquis repérages. Il a été aussi essayé de créer un monde dans lequel la fiction devient aussi complètement plausible. La précision se retrouve d'ailleurs dans la reconstitution des parcours, tant sur le détail que sur la représentation des lieux traversés. On peut le voir dans SOS Météor, qui se déroule entre Paris et la région de Versailles, étant exemplaire de son pointillisme, on pourrait dire. On retrouve également des intrigues policières, comme dans La Machination Voronoff ou l'affaire Francis Blake.
Les aventures de Blake et Mortimer sont marquées donc par la science-fiction, dans laquelle l'auteur voit une manière de raconter une histoire d'aventure tout en suscitant l'imagination et la curiosité. Ainsi, les aventures de Blake et Mortimer dévoilent de nombreux éléments futuristes qui ont poussé les spécialistes de son œuvre à qualifier Jacobs d'auteur visionnaire. Ainsi, dans Le Secret de l'Espadon, on a l'évocation de l'hypothèse d'une Troisième Guerre mondiale, tandis que les aventures suivantes développent des thèmes comme la guerre météorologique, le clonage humain, le contrôle et la manipulation du cerveau humain, ou encore le voyage dans le temps.
Donc des sujets qui sont toujours d'actualité, pour certains malheureusement. Mais donc dans le souci d'exactitude et de précision qu'il caractérise, Jacob va aussi fabriquer des maquettes de ces engins qu'on peut voir, afin de dessiner et de repérer plus facilement d'éventuelles incohérences dans son œuvre. Donc on voit à quel point c'est quelqu'un qui est rigoureux dans son travail.
L'attrait d'Edgar P. Jacobs pour les civilisations disparues et mythiques, baigné de mystères, de croyances ancestrales et de pratiques occultes, explique la large part accordée aux phénomènes étrangers et à l'ésotérisme dans ses œuvres. Ainsi, on a un Blake et Mortimer sont parfois confrontés à des phénomènes que des capacités scientifiques de détectives ou de militaires ne peuvent pas réellement expliquer. Par exemple, le mystère de la Grande Pyramide instaure un cadre fantastique et met en scène le Sheikh Adel Razek, un vieillard au pouvoir surnaturel, gardien de l'héritage des pharaons, qui frappe Olric d'une malédiction divine.
Alors, si au travers de leurs aventures, Blake et Mortimer vont sillonner le monde, comme je disais tout à l'heure, le Royaume-Uni est quand même le territoire le plus représenté, puisque 16 aventures vont s'y dérouler, et au moins en partie, dont 5 exclusivement en Grande-Bretagne.
Donc il y a quand même un attachement à l'Angleterre. D'ailleurs, à Londres, la capitale britannique, c'est un lieu privilégié pour ces aventures. Et la ville est présentée par les différents auteurs de la série à travers une image de carte postale. Si les héros résident au 99 Bees Park Lane et ont leurs habitudes au fictif Centre Club, les principaux lieux de la ville sont représentés comme Big Ben, la Tour de Londres, en passant par British Museum, Piccadilly Circus, le palais de Buckingham, la Tower Bridge ou encore le siège de Scotland Yard sur Victoria Embankment. L'action se déroule parfois aussi dans des quartiers plus malfamés de la ville, comme Limehouse Dock. L'Écosse aussi est une terre importante dans la série, car c'est la terre d'origine de Mortimer et le pays de Galles dont vient Blake. Donc on s'affigure aussi régulièrement dans les BD, de même que les villes de province anglaises comme Oxford et ses environs, Stamford-upon-Avon, la campagne du Yorkshire. Les lieux emblématiques y sont à chaque fois représentés, comme l'université d'Oxford et l'Ashmolean Museum, le mur d'Adrien, la maison natale de Shakespeare et le manoir de Bletchley Park.
Comme on peut voir, donc, c'est un parfait guide de touristique.
Qui promeut bien le Royaume-Uni.
Voilà, c'est une série british jusqu'au bout des ongles. Alors, mais quand même, l'étranger n'est pas oublié, puisque Paris et ses environs sont au centre de quand même trois aventures exclusivement françaises écrites par Edgar Peter Jacobs, le fameux SOS Météor, le piège diabolique et l'affaire du collier. À cette occasion, le dessinateur va représenter quelques lieux emblématiques de la capitale ou de la région, comme l'Opéra Garnier, les catacombes ou la place d'Enfer Rochefort ou bien le château Roche-Guyon.
Dans les années 1950 à 1960, plusieurs albums sont adaptés en feuilleton, d'abord radiophonique, repus par la suite en vinyle, en cassette audio et même en CD. Jean Topard et Yves Brenneville jouent Blake et Mortimer dans La Marque Jaune et Le Mystère de la Grande Pyramide, tandis que Bruno Kremer et Henri Gussol donnent leur voix aux deux héros dans Le Secret de l'Espadon. France 2, future France Inter, diffuse SOS Météor de mars à avril 1962, en 26 épisodes d'une dizaine de minutes, puis Le Piège Diabolique de mai à juillet 1962 en 27 épisodes audio encore. Blake et Mortimer sont ainsi interprétés à ce moment-là par Maurice Téniac et Jacques Morel.
En 1956, Jean Morel adapte deux aventures de Blake et Mortimer pour les éditions Festival, La Marque Jaune, Grand Prix du disque de l'Académie de Charles Cros, et Le Mystère de la Grande Pyramide. Donc, on peut voir qu'au niveau adaptation, il y a eu, bien sûr, la série, il y a eu les BD, mais on a eu donc la radio qui était le gros média de cette époque-là. Ça se faisait beaucoup, ça se fait encore de temps en temps. Hein. Moi, j'aime bien écouter des histoires à la radio, c'est assez sympa. Mais bien sûr, comme tu vas nous en parler, le cinéma a essayé de s'emparer aussi de la chose, mais...
Attention. Alors, on a eu en effet plusieurs projets d'adaptation au cinéma qui ont été envisagés par différents réalisateurs, mais sans jamais réellement voir le jour. Dans les années 1980, le réalisateur publicitaire Michel Marin cherche à convaincre Edgar P. Jacobs de donner son autorisation à une adaptation de La Marque Jaune en long métrage. Et en avril 1983, il tourne un pilote de 2 minutes 30 avec Pierre Vernier, Yves Brenneville et Michel Vitold dans les rôles de Blake, Mortimer et le docteur Septimus. Le film impressionne Jacobs, mais des divergences entre le réalisateur et la productrice mettent fin au projet.
En juin 2000, second projet d'adaptation de La Marque Jaune est alors annoncé par le producteur français Charles Gassot. La réalisation est confiée à James Hutt, tandis que Blake et Mortimer sont incarnés par Rufus Sewell et Hugues Bonneville. Le tournage au budget de 35 millions d'euros doit débuter en février 2003 pour une sortie en octobre 2004. Et puis finalement, le projet semble ne plus être d'actualité lorsque le réalisateur James Hutt prend les commandes de Brice de Nice en 2004. Donc ça a fait échouer...
Un deuxième projet.
Voilà.
Et bien, c'est pas fini, hein, parce qu'en juin 2008, un troisième projet d'adaptation de La Marque Jaune voit le jour avec l'Espagnol Alex de la Iglesias à la réalisation. Et Kenneth Branagh et David Twellins ainsi que John Malkovich, respectivement dans les rôles de Blake, Mortimer et Ulrich. Un an plus tard, en 2009, c'est au tour de Kiefer Sutherland et Hugh Laurie d'être annoncés dans les deux rôles principaux. Mais le réalisateur peine à rassembler les fonds nécessaires à un scénario. Et en 2013, le projet est définitivement abandonné. Dis donc, il y a une réelle malédiction autour de cette adaptation.
Oui, c'est vraiment la malédiction, que tu peux le dire. Parce qu'en plus, quand on voit les projets qui...
Bon, 35 plus, millions, c'est conséquent.
Non, mais même plus ça allait, plus on avait des acteurs et des réalisateurs bankable. Hein. Le dernier... Tu vois, s'ils avaient réussi à le faire, quand même, d'avoir des acteurs comme John Malkovich, Kenneth Branagh, qui a mis en scène toutes les adaptations d'Agatha Christie, entre autres. Et enfin, bref, des gros noms, pareil, hein, de voir les réalisateurs qui étaient proposés. C'est Alex de la Iglesias, qui est un excellent réalisateur espagnol, que je vous conseille. Hein. Moi, j'adore le boulot qu'il fait. C'est quelqu'un qui part dans le fantastique, l'horreur. Il parle en général de sujets terre à terre pour partir des fois dans un grand. Et vraiment, pour moi, c'est un des meilleurs réalisateurs espagnols. On parle beaucoup d'Almodovar dans un autre genre, mais Alex de Iglesias, moi, je préfère parce qu'il est un peu.
C'est un peu un style à la Guillermo del Toro, rien à voir dans le côté horreur fantastique.
Voilà, il est plutôt. Non, mais même lui, c'est carrément. Il y a de l'humour. On parle, je pense que les sorcières de Zaragamundi, que j'ai pu voir, on part d'un simple hold-up pour partir dans un monde avec des sorcières. Mais toujours avec cet humour espagnol. Ils sont très forts pour le film d'horreur, les Espagnols sont très forts. Et donc, autre adaptation, en 88, Cobra Soft développe et édite un premier jeu vidéo d'action qui s'appelle Aventure sur ordinateur, qu'on peut voir sur les différentes consoles de l'époque, comme Amstrad, ça parle plus ancien. Il s'agit d'une adaptation de l'album La Marque Jaune à travers 5 niveaux.
En 1997, un nouveau jeu est développé par Index Plus et édité par France Télécom Multimédia. Et ça sort aussi sur PC, intitulé « Les aventures interactives de Blake et Mortimer, le piège diabolique ». Le jeu est une bande dessinée interactive, en pointé et cliqué, inspirée de l'album éponyme. Le joueur doit alors interagir avec le décor pour faire avancer l'intrigue et dévoiler les cases suivantes. Un second CD contient la BD commentée par le scénariste Benoît Peters et un documentaire sur l'œuvre de Jacobs.
Et je peux vous dire que c'est amusant à faire parce que j'ai eu comme cadeau de Noël, à l'époque j'avais eu, c'était au début de mes premiers pas sur l'ordinateur, à Noël j'avais eu un jeu sur les Vikings, c'était toutes ces BD interactives et donc c'est vrai que c'est assez marrant puisque moi je connaissais déjà Blake et Mortimer étant très fan de la BD belge en général. Et j'ai eu l'occasion de jouer, et c'est vraiment sympa, c'était vraiment une très bonne adaptation. Bon, c'est un peu vieilli, parce que de clic, maintenant on fait des trucs beaucoup plus réalistes, mais c'était, il y avait ce côté un petit peu recherche, c'était un petit peu de, il y avait pas mal de jeux de l'époque où, voilà, c'était un peu des enquêtes, maintenant ça sera un escape game, mais voilà, c'est un petit peu dans, si vous aimez et que vous voulez retrouver, ça peut être sympa. Alors, en janvier 2011, Anuman Interactive développe et édite Blake et Mortimer, la malédiction des 30 deniers, un jeu d'objets cachés basé sur l'album éponyme, d'abord sorti en iOS. Il est ensuite disponible sur PC et Mac.
En janvier 2013, Nemopolis sort un nouveau jeu d'aventure en pointé et cliqué sur PC et Mac, intitulé « Blake et Mortimer, les tables de Babylone ». Il s'agit pour la première fois d'un jeu vidéo avec un scénario original. Donc on voit encore une nouvelle adaptation.
Voilà. En novembre 2014, History Games sort aussi un jeu de société intitulé « Blake et Mortimer, Witness ». Donc les joueurs doivent résoudre des enquêtes en se chuchotant les indices en leur possession.
En octobre 2015, Fleurus sort « Les énigmes de Blake et Mortimer », un livre-jeu où le lecteur doit résoudre plus de 130 énigmes et un défi de logique. Un second livre, édité par la société Fille Mango, sort en octobre 2016 sous le titre de « Les nouvelles énigmes de Blake et Mortimer ».
En septembre 2001, Warner Music France sort carrément un album de musique de 28 titres intitulé « Blake et Mortimer, alerte Sonic ». L'album compile des musiques de genres bien différents inspirées par les aventures de Blake et Mortimer, telles que la techno, le rhythm and blues, les variétés ou la musique contemporaine. Donc on voit que ça part dans tous les sens.
Il y a de l'adaptation à toutes les sauces. Hein. En 2000, on a Eddie Mitchell qui va reprendre des éléments de la couverture du tome « La Marque Jaune » pour l'affiche de son concert et de sa tournée à travers la France. En 2005, les artistes Georges Aureopoulos et David Vadigard de la société Art Mural réalisent une fresque murale d'une centaine de mètres carrés tirée de la couverture de la marque jaune dans le cadre du parcours BD de la ville de Bruxelles. Et en 2007, Philippe Geluck parodie la couverture de la marque jaune pour celle de son album « La marque du chat ». Les héros de Blake et Mortimer ont connu de nombreuses parodies et pastiches et aussi servi pour des publicités. C'est vraiment un signe d'une notoriété évidente de cette bande dessinée. La marque indienne de moto, par exemple Royal Enfield, a créé en 2009 une série spéciale Blake et Mortimer sur la base de son modèle Bullet 500.
Voilà, donc vous voyez que l'univers donc, de cette série, la série BD a été exploitée donc, pour la série dont on parle aujourd'hui. Et aussi, bah, voilà, Blake et Mortimer, c'est encore quelque chose, malgré que ça a été créé il y a quand même pas mal d'années, ça reste toujours d'actualité, et sa fan army, entre guillemets, des gens qui suivent, bah, c'est les gens qui aiment la BD belge en général. Et ce que je vous propose, bah, c'est, je crois que tu nous as trouvé un petit extrait de cette série pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance de Blake et Mortimer.
Mon vieux Francis, j'abandonne les électrons, les protons, les neutrons et les autres particules élémentaires.
Vous renoncez à la physique, Philippe ?
Pas tout à fait. Je pars en vacances en Égypte.
Au Caire.
Exactement. Mon vieil ami Ahmed Rassim Bey.
Oui, le conservateur du musée égyptien.
C'est cela même, oui. Ahmed m'a invité à lui rendre visite. Oh, c'est splendide. Vous connaissez mon goût pour l'égyptologie. Francis ?
Oh, excusez-moi, mon vieux, je réfléchissais. Nous sommes justement à la poursuite de trafiquants qui opèrent au Caire.
Alors là, je vous arrête tout de suite. Pas question que j'aille jouer les agents de l'intelligence service en Égypte. Tout ce qui m'intéresse, ce sont les vieux papyrus et les momies.
Le plus et les originalités de la série. Ben, j'ai mis une série d'aventures respectant bien l'esprit de son créateur, Jacobs. Et malgré toutes les adaptations qui ont pu être faites après, eh bien, on retrouve... voilà, il n'y a pas eu de trahison, je trouve. Bon, les puristes vont toujours trouver des chicaneries, mais bon, je trouve que l'esprit, aussi bien dans la série que dans les œuvres qui ont été faites de la BD, et ça suit. Et une série, j'ai mis passionnante, avec un beau générique, du fait qu'on traite pas mal de sujets historiques, mystérieux, voilà, ça reste captivant. Moi, je regrette vraiment qu'il n'y ait pas eu l'adaptation film, parce que ça serait... C'est vraiment... Surtout la troisième version là, qu'on nous avait proposée. Bon, on espère que ça va ressortir des cartons. Hein. Tintin, ça a été très longtemps dans les cartons, jusqu'à temps que ça tombe entre les mains de Spielberg, et puis bah, c'est sorti. Mais bon, moi, j'aimerais bien le voir un petit peu, pour en parler de Tintin, de le voir en adaptation humaine, pas dessin animé. Parce que je pense que ça, vu ce que ça parle, ça pourrait être sympa. Il y a plein de possibilités.
Ça pourrait être de la science-fiction, du policier.
Ouais, ça pourrait faire un peu à la Bob Moran, à la Indiana Jones, quoi, genre de truc qui pourrait être sympa. Puisque c'est un peu daté en époque, puisque on parle de la DST, du MIFA, une chose qui existe plus ou moins encore. Mais bon, ouais, avec ce côté un petit peu. Années 60, 70, ça pourrait être assez sympa. Le moins de la série, bah, dommage que toutes les BD de Jacobs et ses successeurs n'ont pas été adaptées toutes dans la série animée. Ça pourrait être encore, bon, ça pourrait être une deuxième saison, pourquoi pas, ça pourrait donner des idées. On a vu qu'au niveau des idées, il y a foison, hein, puisqu'il y a des jeux, il y a plein de choses qui ont été faites autour, dont des scénarios originaux, donc pourquoi pas essayer de refaire une série. Ils l'ont fait avec Tintin, ils l'ont fait avec Astérix, de remettre au jour les séries en utilisant les dernières méthodes numériques. Pourquoi pas ? Alors, si vous avez aimé, eh bien, j'ai mis Bob Moran, la série de télé d'animation franco-canadienne, en 26 épisodes de 25 minutes, créée par le personnage éponyme d'Henri Verne, un autre Français de 1988, donc c'est à peu près juste après la série sur Blake et Mortimer, on a le droit à Bob Moran. Bob Moran, on l'avait déjà eu, mais alors là, il faut être dans les anciens pour l'avoir vu. Bob Moran ou Les Aventures de Bob Moran, qui était une série télévisée française en 26 épisodes de 26 minutes en noir et blanc de 66. Alors, pour les fans, vous pouvez retrouver quelques épisodes sur YouTube. Vous allez vous promener. Et c'est comme ça que je l'ai découvert par hasard. Je ne savais pas qu'il y avait une série. Et j'en avais parlé d'ailleurs dans le coup de cœur série fan. Mais c'est, je pense qu'avec avec Lina, vous pouvez trouver cette série, puisque c'est une série télé française. Et comme eux, ils ont tous les archives, ça va être possible à trouver. Ensuite, ben, Les Aventures de Tintin et Milou, la série et les séries télé. Plus après Tintin et les Oranges Bleues, le film, en image réelle, puisque c'était Jean-Pierre Talbot qui interprétait Tintin. Et à ce propos, j'ai eu l'occasion de faire un spécial cinéphage, puisqu'il était venu au festival BD des Courants d'Amboise. Et on avait fait un spécial cinéphage avec l'acteur qui avait joué Tintin. Alors moi, c'est un rêve de gosse, hein, j'avais eu la chance de pouvoir le faire. Et ensuite, il avait fait Tintin et le mystère de la Toison d'Or. Ça passe régulièrement pendant les vacances pour les enfants, de temps en temps. Donc, ça a ce côté un peu désuet, mais c'est marrant de voir l'Espagne et la Grèce telles qu'elles étaient à l'époque. Et puis, moi, je trouve que cette version était assez, assez bien jouée. Ensuite, Tintin et le lac aux requins, le film d'animation. Et puis, bien sûr, Les Aventures de Tintin, le film de Spielberg. Qui, pour ma part, est pas mal, mais bon, je suis un peu déçu, parce que bah, Spielberg, on a fait un espèce de James Bond, alors que Tintin, c'est un peu Monsieur Tout-le-Monde. Là, je vois les poursuites, ça fait penser un peu à James Bond, plutôt qu'à Tintin. Et d'ailleurs, dans les séries de Tintin, bah, il se prend des coups sur la tête, il se fait assommer, il se fait ligoter. Voilà, donc c'est pas un super-héros comme a essayé de le faire Spielberg hein, pour plaire aux Américains, mais c'est pas toujours bon. Le coup de cœur Sérivore, eh bien, on en a parlé juste après avoir parlé de notre série Blake et Mortimer, c'est Bob Moral, la série télé d'animation franco-canadienne, en 26 épisodes de 25 minutes. Donc, ça peut se manger rapidement pour les sérivores. Créée d'après les personnages éponymes d'Henri Verne, et en lutte donc, contre des servants fous, des espions sans scrupules ou des créatures démoniaques, Bob Moran, qui est un expert en arts martiaux et baroudeur, va partir à l'aventure aux quatre coins du monde, accompagné de son meilleur ami Bill Ballantyne et suivi de près par une séduisante journaliste avide de scoop qui s'appelle Sophie Paramount. Donc, cette série est tout à fait dans la veine de Blake et Mortimer. Comme je disais tout à l'heure, rapidement, on peut la voir, hein, parce que 25 minutes, ça se mange rapidement. Et puis, comme ça, vous comprendrez, quand le groupe Indochine parle de l'aventurier, oui, c'est Bob Moran. C'est
contre lui. Tout chacun.
Voilà, c'est tout à fait l'histoire. Et puis, je vous invite également à découvrir les romans, hein, puisque c'est des romans, d'Henri Verne. Vous pouvez les trouver un petit peu partout encore. Et donc, c'est un peu de l'aventure à la française. Ça fait penser à un peu comme l'aventurier avec Jean-Paul Belmondo, des choses comme ça. Le gars qui est un petit peu tout fou, qui part. Et là, pareil, il a ses copains, il y a des grands méchants. C'est assez sympa comme littérature. Je vous propose d'écouter le générique de la série. Eh bien, fin de ce Sérivore consacré à Blake et Mortimer et Bob Moran, donc les deux séries d'animation. C'était aussi un petit clin d'œil au courant BD organisé par Radioactive régulièrement tous les ans, où j'ai eu l'occasion, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de rencontrer entre autres Jean-Pierre Talbot, le Tintin à l'écran. Mais aussi, eh bien, peut-être, vous pourrez rencontrer à cette occasion des auteurs qui seront adaptés ou qui ont déjà été adaptés au ciné, puisqu'en général, la bande dessinée inspire beaucoup les cinéastes. On a vu ce que ça fait de donner avec Luc Besson et Valérian, par exemple, et tout un tas. Donc, n'hésitez pas à continuer à écouter Sérivore et puis à vous rendre au courant BD,
qui auront lieu au mois de juillet.
Au mois de juillet, à Saint-Ouen-les-Vignes. En attendant, continuez à dévorer les séries sans modération. Bye bye.
Bye bye.
Nous vous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil. Jusqu'à la prochaine émission.
Maintenant, choisissez votre camp.
Devenir un cereal lover
ou un cereal eaters.
...94.7, la Touraine dans la radio.
La Touraine.
Radioactive.
Radioactive. C'était un type partout haï, tout le monde voulait toujours le frapper. Il arrivait à énerver le plus mollasson des hippies. C'était un type pas très chanceux, l'inconnu lui collait un pain. Et ceux qui connaissaient très bien, à chaque fois lui en mettaient deux. C'était le mec Jean Sarkozy qu'à l'école tout le monde martyrise. Et que la vengeance galvanise pour devenir chef de parti. C'était un type aux yeux de fouine qui dénonce celui qui discute. Que tout le monde traite de fils de pute, que l'on la dépique qu'on piétine. Cours de droite, très fier de sa cravate. Cours de droite, bien carto, bien réac, et bien droit dans ses bottes. C'était un type aux yeux de traître, comme on en fait dans les péplums. La tête couverte d'hématomes, le genre que jamais on regrette. C'était le genre que les chiens mordent d'instinct juste parce qu'ils puent la haine. Et dont la démarche de hyène dissuade de toute miséricorde. Le genre de mec qui, aux trois jours, gueulait qu'il voulait s'engager. Et qu'il fallait bien une armée, n'a pas pu finir son discours. Ce petit arriviste ambitieux devint un brillant étudiant. De toutes ses dents au milieu des autres têtes d'honneur. Cours de droite, très fier de sa cravate. Cours de droite, bien carton, bien réac, et bien droit dans ses bottes. Largement assez con. Et sa face de joyeux luron brillait au défi de Jeanne d'Arc. C'était le salaud qui doute de rien ancré dans toutes ses certitudes. Qui considère le monde comme sien qu'il a appris dans ses études. Il disait je suis capitaliste, on savait même pas ce que c'était. À tout hasard, on tapait dessus, on n'était pas très cultivés.
C'est vrai.
Je l'ai revu dans une manif, c'est lui qui tenait la matraque. Il était beaucoup moins chétif, mais toujours autant cataclaque. Cours de droite, très fier de sa cravate. Cours de droite, bien cato, bien réac, et bien droit dans ses bottes.
De tourner le gaz, comme envie de me faire sauter les plombs, comme envie de t'expliquer comme ça ton indifférence, elle ne me touche pas. Je peux très bien me
passer de toi,
comme envie de sang sur les murs, comme envie d'accident de voiture, comme envie de t'expliquer comme ça ton indifférence, elle ne me touche pas. Je peux très bien me
passer de toi.
Comme envie de n'importe quoi, comme envie de crever ton chat, comme envie de tout casser chez toi, comme envie de t'expliquer comme ça, je peux très bien me
passer de toi.
J'ai comme envie d'une fin torride, comme on n'en voit qu'au cinéma. J'ai comme envie que ce soit terrible et que ça se passe juste en bas de chez toi, je peux très bien me
passer de toi.
Thank you. va, je me traîne comme envie de sang sur les murs, comme envie d'accident de voiture, comme envie de n'importe quoi, comme envie de crever ton chat, je me traîne bien me, comme envie de sang sur les murs, comme envie de crever ton chat, comme envie d'accident de voiture, je me traîne bien me.
Radioactive.
Radioactive. Radioactive.
La Touraine a trouvé sa radio.
Vous avez trois nouveaux messages. Jeudi 10 juin à 10h34.
Mon pote, niveau informatique, je suis maître Jedi, ok? Ceinture noire en piratage.
Moi je mets que des balles
dans ton baladeur, baladeur.
Je mets que des balles
dans ton baladeur, baladeur.
Moi je mets que des balles
dans ton baladeur, baladeur, baladeur.
Moi je mets que des balles
dans ton baladeur, baladeur.
Je mets que des balles
dans ton baladeur, baladeur.
Moi je mets que des balles
dans ton baladeur, baladeur, baladeur.
Que des balles dans ton baladeur.
Y'en a qui se croient dans Dallas, glorifiant la loi du plus fort. Y'en a qui ont jamais tort, qui se pavanent et font les fiers. Y'en a des pathétiques, de drôles, de volatiles, sûrs de détenir les clés d'une vérité trop volatile. Y'en a qui critiquent la télé, mais sont rivés dessus. Y'en a qui sont intoxiqués alors qu'ils se pensent au-dessus de ça. Y'en a qui pètent un cap, qui cherchent des boucs émissaires, qui sont rendus responsables de leur propre misère.
Moi je mets que des balles
dans ton baladeur, baladeur.
Je mets que des balles
dans ton baladeur, baladeur.
Moi je mets que des balles
dans ton baladeur, baladeur, baladeur.
Que des balles dans ton baladeur.
Moi je mets que des balles
dans ton baladeur, baladeur.
Je mets que des balles
dans ton baladeur, baladeur.
Moi je mets que des balles
dans ton baladeur, baladeur, baladeur.
Y'en a qui se la jouent viril, mais leur connerie est sidérale. Ça pédale dans la smoule, dans l'aigreur intersidérale. Y'en a qui rabaissent les meufs, veulent les voir dans la cuisine. Ça rassure leur écho quand ils les voient courber les chines. Y'a des gens super paumés, y'en a qui suivent quelques gourous, qui t'expliquent la vie alors qu'eux-mêmes se sont bourrés. Y'en a qui disent
j'ai été trop gentil, maintenant fini de se faire avoir.
Mais c'est en disant ça qu'ils rejoignent le troupeau des bâtards.
Moi je mets que des balles
dans ton baladeur, baladeur.
Je mets que des balles
dans ton baladeur, baladeur.
Moi je mets que des balles
dans ton baladeur, baladeur.
Moi je mets que des balles
dans ton baladeur, baladeur.
Je mets que des balles
dans ton baladeur, baladeur.
Moi je mets que des balles
dans ton baladeur, baladeur, baladeur.
Que des balles dans ton baladeur, 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 baladeur,
baladeur.
94.7, la Touraine dans la radio.
La Touraine.
Radioactive.
Radioactive.
I'm blind. Everything is so good when she's